My gang will get you.
Les enfants du Nouveau Monde, une émission de Céline Elodie. Même si on nous en parle très peu, le monde est rempli de belles choses. Des humains en marche, des initiatives pleines de bon sens et d'humanité. Nous sommes tous une étincelle de cette transformation. Avec les enfants du Nouveau Monde, partons à la rencontre des terriens d'ici et des humains de là-bas, des enfants de la Terre qui aiment notre planète, qui croient en leurs rêves et qui créent un monde meilleur par leurs actions quotidiennes. Aimer l'humain, humer l'humus, humilité, avec humilité. Bienvenue sur Terre, enfants du Nouveau Monde.
Hey man, you want girls? I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Bonjour, chères auditrices et auditeurs des Enfants du Nouveau Monde. Nous nous retrouvons en ce mois de décembre 2018. C'est la période de Noël et nous allons parler de rêves et de lumière. Ça va bien pour la période de Noël. En fait, on va parler de rêve-lumière. Mais qu'est-ce que c'est le rêve-lumière? Eh bien, Virginie Boissière est là pour nous en parler. C'est quelque chose qu'elle a créé. Bonjour Virginie.
Bonjour Céline Elodie.
Alors, toi, tu es sophrologue, tu es diplômée de psychologie clinique et tu es donc créatrice de ce rêve-lumière. Tu es rentrée dedans, en fait, par ta rencontre avec Michel Tabé, qui était psychothérapeute et astrologue et qui lui-même avait créé le rêve d'éveil.
Oui, oui, tout à fait. Donc, j'ai été formée par lui au rêve d'éveil, qui est un outil d'investigation intérieure, de voyage intérieur, de guérison par le voyage intérieur. J'ai travaillé avec Michel et sa compagne de travail, Sylvie Gavilan, quelques années. Et puis, en 2017, eh bien, je me suis lancée dans ma propre création, qui m'est d'ailleurs venue en rêve.
Alors, le rêve, c'est quelque chose qui est très important pour toi depuis toute ta vie, c'est ça? Depuis l'enfance?
Ouais, depuis jeune, ça m'accompagne. En tout cas, depuis la jeune adolescence, je vais dire, puisque ma mère a fait une dépression quand j'avais 12 ans. Elle a fait tout de suite un travail sur elle et qui mettait beaucoup en scène ses rêves. Donc, elle m'en parlait. J'ai appris assez jeune le langage des rêves, qui est un langage en images, et ainsi que le langage de l'inconscient, puisque le langage des rêves et le langage de l'inconscient sont la même chose.
Et ça t'a passionné.
Et ça m'a passionné de voir à quel point l'inconscient finalement ramenait les informations importantes à notre conscience par le biais des images, des rêves, de tout ce qui peut se dire autrement. On peut pas entendre parler aussi aujourd'hui de la langue des oiseaux.
Oui.
Et on va toucher vraiment à ce type de langage-là avec les rêves.
C'est un langage poétique, profondément poétique.
C'est un langage poétique, tout à fait.
Donc la poésie fait profondément partie de l'être humain.
Oui, complètement. Et l'art. La poésie, elle vient dire des choses en associant des mots qui des fois ne veulent pas du tout dire ces choses-là. Elle peut dire des choses supérieures à ce que les mots en eux-mêmes disent vraiment. Par l'intermédiaire des images.
Tout à fait.
L'accès aux images met tout de suite en scène l'imaginaire chez les gens, et l'imaginaire donne accès à des parts de soi qui sont, plus globales.
Alors, vu que tu parles tout de suite d'imaginaire, ça peut être intéressant de détailler à ce moment-là, dès l'introduction de notre émission, puisque l'imaginaire a été beaucoup saboté, a eu mauvaise presse, on va dire,
dévalorisé,
voilà, dans notre société. Ouais. Et quand on dit, mais c'est n'importe quoi, c'est ton imaginaire, etc. Comment toi tu répondrais à ça? Finalement, l'imaginaire est une part du réel qui est importante.
Oui, pour moi, l'imaginaire est une part du réel et sans doute la plus importante. Je pense qu'il n'y a aucune création dans ce monde qui ne voit le jour sans passer par l'imaginaire. C'est toute création nouvelle. D'ailleurs, Einstein en parle très bien et pourtant c'était un être de science. Il parle essentiellement de l'imaginaire dans toutes ses trouvailles. Il explique que l'imaginaire dépasse grandement le savoir. Le savoir ne peut que répéter ce qui est déjà connu, alors que l'imaginaire amène dans la matière de l'inconnu et du nouveau et permet l'évolution.
Du coup, ça invite à un nouveau regard sur, par exemple, les enfants qui ont un imaginaire débordant.
Mais tout à fait, qui ont un imaginaire débordant et puis qui ont une créativité débordante et puis qui, à travers leur imaginaire, ben, résilient beaucoup les difficultés de leur quotidien, mais aussi interprètent, apprennent le monde. Les enfants apprennent énormément de choses abstraites à travers leur jeu qui ne leur seraient pas accessibles sans l'imaginaire. En tout cas, on fonctionne comme ça. Mmh. Aujourd'hui, il y a vraiment des études qui sont faites, notamment, je pense à ce chercheur Idriss Aberkane, que j'aime beaucoup, et qui explique que tous les mammifères apprennent en jouant, tout simplement, même les animaux, et que sans le jeu, il n'y a pas d'apprentissage. Donc, bien au contraire de dévaloriser l'imaginaire, il est peut-être grand temps pour les adultes de reconquérir leur imaginaire pour créer le monde dans lequel ils ont envie de vivre. Puisque leur mental leur offre un monde un peu, souvent un peu triste et avec des chaos qu'on n'aurait peut-être pas besoin de vivre, en tout cas pas de manière aussi vaste dans le monde.
Et plus on va mettre notre énergie dans justement chérir et soigner le monde de nos rêves dans notre imaginaire, plus on va lui permettre d'advenir dans la réalité, c'est ça ?
Exactement. Tout à fait. En fonction des scénarios qu'on alimente en nous au quotidien, on crée notre réalité. Donc c'est ce que les enfants font, mais c'est ce que nous, nous faisons, mais de manière souvent inconsciente. On alimente des pensées inconscientes ou des pensées répétitives qui ne nous donnent pas accès finalement à une zone plus haute en nous qui est l'imaginaire et qui va être de vraiment visualiser, imaginer, créer en nous au quotidien la réalité dans laquelle on a envie de vivre et cesser d'alimenter des peurs, des doutes qui vont créer dans notre réalité des peurs et du doute.
C'est un vrai secret de création de réalité, hein, ce qu'on aborde là.
Fait,
Et c'est d'une importance fondamentale. On le retrouve également dans des textes sacrés. Hein, la question de, par exemple, remercier comme si c'était déjà là. Remercier comme si c'était déjà là, c'est ayez foi. Ayez foi dans ce que vous croyez et dans ce que vous avez à cœur. Parce que si vous le chérissez, ça adviendra.
Tout à fait. C'est vrai que de toute façon, l'imagination fécondée par l'amour, quand tu dis chérir, on entend amour, fécondée par l'amour, ça va donner des belles réalisations lumineuses, des réalisations d'amour. Et puis l'imagination peut-être fécondée par la peur et qui est plus inconsciente va donner des réalisations souvent répétitives et obscures. Donc je pense qu'on est vraiment à un moment de notre évolution, l'humanité, où c'est le moment de reconquérir, d'apprivoiser notre imaginaire pour savoir comment l'utiliser, parce que c'est vraiment une clé en nous, une clé de création, de concrétisation, de réalisation.
Et pour l'instant, on nous l'a pas trop, elle est peu reconnue et donc on n'en maîtrise pas le fonctionnement.
Tout à fait. Donc... Et en même temps, on voit tout un tas de techniques venir au monde. Je pense à la sophrologie, je pense à l'hypnose. J'ai tout un tas de... Les mots ne me viennent pas, mais il y a tout un tas de techniques aujourd'hui qui sont vraiment à la base de pour nous aider à reconquérir cet espace de l'imaginaire, à réapprendre à l'utiliser, à l'apprivoiser pour en faire vraiment une création matérielle. Moi, j'ai envie de dire créer le paradis sur Terre.
C'est tout à fait ça l'enjeu.
C'est là l'enjeu, ouais.
Aussi bien à un niveau individuel qu'à un niveau collectif.
Exactement.
Et le seul endroit pour l'instant où nous avons un... Bon, enfin, peut-être pas, mais en tout cas, là où nous avons le principal pouvoir, c'est dans notre vie et sur notre personne et sur notre monde intérieur. Et alors justement, c'est ça qui fait toute la puissance du rêve-lumière que tu as créé et qui est fondamentalement un outil de voyage intérieur.
Oui.
Et de guérison également, et de création de réalité.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ce...
Alors, le rêve-lumière, vraiment, c'est justement un outil pour reconquérir et réapprivoiser cette force de l'imaginaire qui est en nous. Déjà, on est des êtres de collectif, c'est-à-dire qu'au quotidien, je rêve ma vie, même si je n'en ai pas conscience. Et le rêve que je produis au quotidien, énergétiquement, hein, il se rajoute au rêve de mon voisin, au rêve de ma famille, au rêve du collectif, au rêve de l'humanité tout entière. Finalement, la réalité qu'on vit aujourd'hui sur Terre, elle est le cumul de tous nos rêves individuels. Mmh. Donc, mon idée avec le rêve lumière, c'est vraiment de rendre à chaque personne sa responsabilité. Pour moi, cet outil, c'est un outil de responsabilité. Je ne suis plus victime dans mon quotidien de ce que je vis, mais je reprends le pouvoir en moi, je réapprends à utiliser mon intériorité pour faire quelque chose, donner une création qui me plaît dans ma vie. Je ne suis pas dépendant de ce qui me vient de l'extérieur. Avec le rêve lumière, je travaille en moi ce que je veux vivre à l'extérieur. Si on peut le dire autrement, on crée en permanence, on vit nos croyances. Toutes les croyances que j'alimente en moi, c'est ce que je vis au quotidien. Si j'alimente 40% de croyances lumineuses et 60% de croyances obscures, même si elles sont inconscientes, je n'en ai pas conscience, mais je les alimente. Eh bien, ça va donner une réalité, concrètement, de 40% de lumière à 60% obscure. Mmh. C'est carrément mathématique. Mmh. Donc après, comment est-ce que je reconquiers en moi ces espaces-là, qui sont obscurs et inconscients, les ramène à la conscience et utilise le rêve lumière ou d'autres outils, hein, pour redevenir l'artiste, l'artisan de ma vie, le créateur de ma vie. En changeant ma vie énergétiquement, je change le monde.
Tout à fait.
Parce que je vais déjà ajouter un rêve lumineux au rêve collectif. Mais si je fais ça et que beaucoup de gens se mettent à faire ça d'un coup, beaucoup de choses dans le monde vont basculer. D'ailleurs, je pense qu'on vit en ce moment des petits moments où il y a beaucoup de choses qui changent et qui étaient un peu sous-jacentes et qui commencent un peu à se voir. Des gens qui se solidarisent. Il y a vraiment des formes, différentes formes de l'amour qui prennent scène.
Qui commencent à se voir au niveau collectif.
Au niveau citoyen, ouais. Une sorte de solidarité, de plus envie de suivre les règles qu'on nous dicte de l'extérieur, envie d'auto-créer cette société dans laquelle on a envie de vivre, tout ça, voilà. On sent que c'est en train d'émerger un peu de différentes façons, avec différents outils, et dans différents domaines de notre société aussi.
Thank you.
Vous écoutez Les Enfants du Nouveau Monde et c'était la délicieuse chanteuse de Chambao, La Marie, avec la chanson Camino Interior, ce chemin intérieur dont nous parlons aujourd'hui avec Virginie Boissière, qui est installée près du ZES et qui a créé cet outil, le rêve lumière.
Oui, c'est vraiment ce moment de changement de paradigme.
Voilà. Et bon, évidemment, le rêve lumière reste un outil de développement individuel et collectif.
La prise de conscience.
Oui, par la prise de conscience. Et puis, lorsque les gens rêvent éveillés avec le rêve lumière et font ce voyage intérieur, il y a toujours quelque chose qui se manifeste à eux. Et on peut se poser la question de qu'est-ce qui en eux amène soit cette blessure en eux qui a besoin de guérir et que c'est le bon moment, soit ce potentiel qui est prêt à être utilisé dans leur quotidien. Il y a une logique dans la suite des rêves aussi. Les gens qui font un suivi en rêve lumière, je me rends compte qu'ils passent par une étape pour aller à une seconde, une troisième. Il y a toute une logique intérieure.
Un chemin initiatique.
Et ça les dépasse.
Exactement. Il s'agit d'un chemin initiatique.
Et ils sont, en ce cas, initiés par eux-mêmes.
Wow.
Donc, l'idée, au-delà d'acquérir le rêve lumière, c'est vraiment de reconnecter à notre guidance
intérieure.
C'est-à-dire, en nous, il y a tous les savoirs. Si nous avons fabriqué les blessures, nous avons les guérisons. Si nous sommes incarnés pour certaines, avec un certain projet de vie, et si on ne colle pas vraiment à ce projet de vie, ben, ça va manquer d'épanouissement de cette vie. Mais si on arrive à coller vraiment à nos valeurs, à ce projet d'incarnation, alors ben, on va tout simplement rayonner, on va jouir de l'existence. On n'est pas venu au monde pour souffrir, on est venu pour jouir de l'existence et apporter ben, notre lumière.
Et nous avons choisi quelque part le jeu de cartes avec lequel nous arrivons,
que
ce soit des cartes de blessures, que ce soit des cartes de potentiel.
Ouais,
nous avons choisi notre jeu et toute carte a son intérêt. Finalement.
Tout à fait, toute carte a son intérêt. Elle est choisie par des parts de nous en fait.
Mm-hmm.
Chaque chose qui nous arrive dans la vie, nous l'avons choisie.
Mm-hmm.
C'est pour ça qu'il est très important de ramener de la conscience, parce que ramener de la conscience à tout ce qui vient à nous et prendre la responsabilité de tout ce que nous vivons, ça va nous amener à vraiment amener les choses obscures dans la lumière et passer de la souffrance à la joie. Donc après, c'est vraiment pour moi le rêve lumière, un outil pour conquérir le bonheur, tout simplement.
Et alors c'est très drôle parce que on a l'impression que le rêve, ça serait à opposer avec la réalité, alors que c'est justement à travers le rêve qu'elle, là, on va pouvoir percer des illusions et on
exactement.
Va pouvoir venir vraiment rencontrer une vérité intérieure profonde.
C'est souvent très fort, le rêve en lui-même s'accompagne le plus souvent d'émotions fortes pour la personne qui le vit. Elle est réellement mise en contact avec certaines énergies en elle qui la libèrent de certaines prisons qu'elle s'est elle-même construites, ou bien qui l'amènent dans des étages de compréhension d'elle-même, de création, qui la touche énormément aussi. C'est toujours assez fort.
C'est un véritable outil de guérison. Du coup, ça paraît logique qu'on vive des émotions fortes, parce que à travers ce rêve lumière, il y a des blessures qu'on peut aller rencontrer et transformer et guérir. Il y a un travail énergétique là, puissant.
Oui. Alors les blessures, ce sont des parts de nous. Ça peut se manifester sous la forme d'enfants intérieurs. On entend beaucoup parler de ce concept parce qu'il est très important. Donc on va retrouver des parts de nous, peut-être à l'âge de 5 ans, à l'âge de 2 ans, à l'âge de 12 ans, et même à l'âge adulte. Ça reste des parts blessées qui appellent notre attention et qui souvent dans notre quotidien nous sabotent parce qu'elles ont besoin, ces parts de nous, d'être reconnues, d'être accueillies dans l'amour plutôt que d'être jugées. Et souvent on est amené à se juger dès qu'on fait des erreurs et c'est tout un nouveau fonctionnement avec soi, de rentrer vraiment en empathie, en compassion, en amour pour soi, pour toutes les parts de soi, même celles qui font des bêtises, même celles qui font des erreurs, même celles qui sont dans certains domaines complètement à l'ouest.
Ou immatures.
De toute façon, on n'avancera pas sans accueillir toutes les parts blessées de nous. Tant qu'on les garde à l'extérieur, qu'on ne veut pas les accueillir, elles nous sabotent dans notre quotidien. Donc, les reprendre en soi, c'est leur permettre de se transformer. Et lorsqu'elle se transforme, en fait, tout est une lumière. Toutes nos parts obscures sont des lumières qui se sont oubliées ou qui se sont perdues. Donc, tant que nous les maintenons à l'écart, dans la séparation avec le jugement, ben on avance qu'avec certaines parts de nous-mêmes. On n'est pas entier, on n'est pas complet. Donc c'est vraiment ça aussi le rêve de lumière, c'est un outil d'unification, de complétude, de réunification à soi, à différentes parts de soi. Alors moi je parle de multidimensionnalité.
Merci, je voulais y venir justement.
Et multidimensionnalité, on peut parler verticale ou horizontale. La multidimensionnalité horizontale, ça va être ben, justement toutes les sub-personnalités.
Les sub-personnalités, toutes les parts de nous en
fait. Tous les personnages de réalité qu'on a en nous, toutes les parts blessées, toutes les mémoires qu'on hérite de nos familles, puis les mémoires karmiques. On peut parler de vie antérieure, par exemple, qui font aussi partie...
De psychogénéalogie, voilà, de tout ça, effectivement.
Ouais. Mm-hmm. Et on a comme ça des choses à guérir, qui sont le projet de notre âme dans cette incarnation. Et donc, effectivement, se réunifier à toutes ces parts-là pour vraiment jouer avec toute notre palette de couleurs. Ouais. Et ensuite, il va y avoir la multidimensionnalité.
Juste avant que tu passes à celle-ci, pour moi, c'est très important déjà d'avoir une conscience de ça, c'est-à-dire que nous ne sommes pas un être homogène ou uniforme.
Tout le temps le même, on n'est jamais le même. On change tout le temps et on voit nos humeurs changent. On n'est pas la même personne le lundi ou le mardi et on n'est pas non plus la même personne au travail ou en amour.
Et c'est un grand piège que de s'identifier à chaque fois à une de nos facettes, parce que on limite notre être de façon assez dramatique et ça crée une sensation de panique intérieure, surtout quand on s'identifie à des parts justement blessées, etc. Et prendre conscience que nous sommes beaucoup plus que ça, nous donne la possibilité d'amener nos parts les plus blessées dans la lumière plus vite, parce qu'on peut aussi s'appuyer sur les ressources de le sage ou la sage en moi, de la guérisseuse en moi, de la mère aimante en moi, etc.
Tout à fait. Tous les personnages avec lesquels j'ai aussi envie de jouer. Oui. Puisque c'est un jeu. Et là encore, on va retrouver le savoir-faire des enfants qui savent très bien changer de personnage. Et ils font ça très bien, les enfants. Les enfants, c'est nos modèles. Pour moi, ils savent exactement comment apprendre le monde, comment libérer les émotions. Et puis, 5 minutes après, ça y est, c'est fait. Ils nous montrent vraiment d'où on vient, en fait, ce qu'on est vraiment. Alors, bien sûr, ils ont besoin d'acquérir une structure, une maîtrise. Mais
il y a une puissance vitale, une intelligence,
créative.
Ouais.
Et on voit à quel point on vit dans un monde créatif. Quand on voit toutes les espèces qui existent, quand on voit la diversité de tout, c'est surprenant. J'ai presque envie de dire, ça dépasse ce qu'on peut même imaginer.
Tout à fait. Donc, jouons sans limite avec tous ces archétypes qui nous composent.
Tous ces archétypes, exactement.
Et voyons...
C'est comme un piano avec toutes ses touches. Et si dans la vie, je me coupe qu'à la fin, il ne me reste plus que 3 touches, la mélodie que je vais jouer, elle va avoir... Elle va manquer un peu de diversité. Donc, comment est-ce que je peux me rendre toutes les touches du piano pour jouer vraiment la symphonie qui m'habite dès le départ.
S'ouvrir à notre immense théâtre intérieur.
Exactement.
Illimité.
Donc là, c'est vrai que la multidimensionnalité horizontale, c'est le théâtre intérieur. Tout à fait ça. Et après, la multidimensionnalité verticale, pour moi, c'est vraiment les différentes dimensions de l'être. En partant, par exemple, de notre aspect minéral, végétal, animal, humain, mais aussi, on pourrait dire, l'âme ou la partie angélique. Mais ça va nous amener vers le divin, vraiment. Et donc là, on va jouer aussi avec toute une palette. D'ailleurs, il me semble que dans le rêve lumière ou dans tous les outils un peu connectés, on va recevoir les informations dont on a besoin de ces parts plus élevées de nous-mêmes.
Sachant que voilà, là aussi, il y a tout un théâtre intérieur dans ce sens vertical.
Exactement.
Et on peut autant retrouver la partie animale de nous-mêmes que la partie la plus divine et la plus hautement guidée et divinement guidée.
Exactement. Et puis, d'une certaine façon, tout est divin.
Voilà, c'est ça. C'est ce que il ne faudrait pas penser dans ce que je dis qu'il y a une échelle de...
De valeur.
De valeur. Ouais. Voilà, tout
ça,
à fait.
Ça, tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Cette histoire d'échelle de valeur, elle se joue à différents plans, puisqu'il y a aussi pas mal de gens dans les rêves qui connectent leurs guides, qui vont dire « oui, j'ai des guides qui m'accompagnent au quotidien ». Et parfois, il y a un vrai travail à faire dans la relation à ces guides, parce qu'ils se sentent en dessous, ils se sentent inférieurs, comme si les guides étaient à des plans supérieurs.
Les guides et invisibles, donc,
ouais,
qui les accompagnent.
Des formes de conscience, on va dire. Peu importe qu'elles soient imaginées ou réelles, oui. De toute façon, ce sont des énergies utiles au développement de la personne. Et en ça, du coup, à un moment donné, il y a vraiment un besoin de reprendre notre juste place, de se remettre à égalité avec ces dimensions-là. Nous sommes une part incarnée qui agit dans la matière, et ces guides, imaginés ou réels, dans d'autres dimensions, ne peuvent pas agir sur la matière. Donc, ils ont réellement besoin de nous pour actionner la matière. Et du coup, nous sommes vraiment... c'est comme une équipe.
Oui.
On travaille en équipe, en fait. Et du coup, je suis des fois amenée à accompagner les gens aussi à se revaloriser dans le champ de cette multidimensionnalité.
Revaloriser la dimension humaine.
Ouais, la dimension humaine, qui n'est ni en dessous, ni au-dessus.
Mais qui est toute particulière et toute unique, avec ses fonctions particulières.
Et qui est à vivre intensément. حين فرفرت بيا الروح على جناح الملائكة كيس فين تسينا نوح فوق في قلبي القروح راني نحلم وعيني يا فايق فيها ما زالي فيها ما زالي مالك أنا البلاد نروح فيها ما زالي مالك أنا على البواب الفالكة ومسجد مفتوح شعايل الشمس المخالفة نطل سما الممسوح للريح طريقي سالكة أنا البلاد مروح فيها مازالي
d'écouter l'envoûtante Jazia Satour avec Mnam dans Les Enfants du Nouveau Monde. Et si le rêve était le terreau fertile de la réalité? Et si notre monde tangible plongeait ses racines puissantes ou malades dans le monde plus ou moins conscient de notre imaginaire? Alors, comme le savent les chamans, pour maîtriser notre création de réalité, il faudrait réapprendre à rêver. C'est ce qu'enseigne Virginie Boissière, accompagnatrice en Rêve Lumière.
J'aimerais que peut-être on arrive un peu mieux à cerner comment ça se passe, une séance de Rêve Lumière, alors.
Concrètement, une séance de Rêve Lumière individuelle, la personne est allongée, elle a les yeux fermés, l'accompagne en relaxation, quelques instants. Il y a une connexion à l'énergie du cœur, à la lumière du cœur qui se fait. On va connecter l'énergie du cœur aussi au ciel, à la terre, dans une sorte d'axe comme ça, justement, mon plan humain, mon plan lumineux. Et puis, l'accompagnant va donner le relais à la personne qui va raconter et verbaliser tout ce qui lui vient, que ce soit les sensations corporelles, que ce soit des visualisations en images. Le plus souvent, c'est une histoire qui se raconte. Et la personne voit en images... comme elle pourrait être en train de regarder un film, et certains éléments de sa vie lui sont montrés, ou bien elle va partir dans un voyage complètement imaginaire.
Et là, le travail de l'accompagnant va être peut-être de tenir le fil.
Ouais, tenir le fil. Et aider la personne à tenir le fil, approfondir certaines zones du rêve qui lui semblent importantes. Parce que la personne aura tendance, dans les zones difficiles, à vouloir aller ailleurs, ou alors à mettre tout de suite un baume de réparation. Et parfois, il est important de vraiment comprendre la blessure, de rentrer dedans, de laisser émerger les émotions qui sont contenues pour les libérer, et non pas de vite passer du baume, ce qui pourrait parfois être, je trouve, le piège dans, par exemple, la sophrologie. On va tout de suite chercher le bien-être. Mais il y a quand même une part de nous qui n'est pas le bien-être et qui est importante à reconnecter.
Bien sûr.
Et qui nous parle de nous. Sinon, on vit qu'avec la moitié de nous-mêmes.
Oui, et puis on continue de refouler les blessures, ce qui fait mal, et on se les trimballe dans le sac à dos. Hein. Donc on va mieux sur le moment.
Mais c'est du pansement. Et c'est pas de la vraie guérison.
C'est du pansement sur une blessure qui va pas, qui guérit pas. Ouais. Oui, pardon, redis-le, c'est important. Ouais.
La vraie guérison, c'est une réunification. C'est redevenir l'être total que l'on est.
Avec toutes nos parts, même celles qui sont les plus sombres.
Dans l'amour.
Ouais,
dans l'amour,
voilà, c'est ça. Mm-hmm.
C'est vraiment un travail d'amour de soi. Hein. Mm-hmm. Ouais. Sortir du déni de soi pour entrer dans l'amour de soi.
J'imagine, moi j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter avec toi le rêve lumière, de faire une formation, etc. Donc j'ai plongé dedans et ça m'émerveille vraiment. Mais j'imagine que pour des personnes qui en entendent parler pour la première fois, ça peut peut-être être un peu difficile d'imaginer justement que juste en fermant les yeux et en s'allongeant, il y ait une histoire qui se raconte dans notre monde intérieur, comme ça, issue de rien.
Ouais, c'est sûr, il y a des gens des fois qui arrivent en séance et qui sont inquiets, qui pensent qu'ils ne vont rien voir, mais bon, ça n'arrive pas souvent. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, ça n'arrive presque jamais. Après, effectivement, on peut être en prise avec une personne qui a d'énormes résistances et qui vient à une séance mais qui n'a pas réellement un souhait profond de guérir, et auquel cas, effectivement, la séance ne va pas réellement se mettre en place, mais ce serait la même chose avec un autre outil. À un moment donné, si la personne arrive dans cette séance avec une envie vraiment de dépasser une certaine limitation dans sa vie, alors elle va avoir accès... quelque part, c'est comme si elle se demandait à elle-même de guérir, et en ça... cette part de guérison en elle s'active.
Et qu'en est-il des personnes qui ont des croyances très limitantes, justement, autour de l'imaginaire, et qui, à qui on a longuement répété que tout ce qu'ils imaginent est faux? Et du coup, est-ce que ça peut créer justement un blocage en rêve d'éveil?
Ben, ça peut toujours créer un blocage, mais je pense que tout simplement, des gens qui ont des limitations aussi fortes sur la notion de l'imaginaire ne viendront peut-être pas à moi, ou vers le rêve lumière. Mais si jamais elles arrivaient à cet endroit-là, elles n'y arriveraient pas pour rien.
Bien sûr.
D'une certaine façon, c'est que le moment serait venu pour elles de
d'ouvrir
la porte de leur imaginaire.
De réouvrir la porte, sachant que quand on arrive au monde, la porte est ouverte.
Exactement, hein, mais c'est un don qu'on a dès la naissance.
Et alors, au sein donc de ton travail en Rêve Lumière, tu utilises plein d'autres outils qui sont tous plus intéressants et puissants les uns que les autres, notamment l'astrologie vivante.
Alors l'astrologie vivante, oui. Alors juste, oui. Moi, je ne suis pas astrologue. J'ai appris l'astrologie par le rêve. Donc c'est une astrologie vivante qui m'a été transmise comme ça par l'outil du rêve. Et en accompagnant les gens dans leurs propres rêves et en ayant leur thème astral à côté, je voyais toujours certaines zones du thème qui m'étaient révélées.
Alors on va juste faire une petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas, le thème astral, c'est en gros votre carte du ciel. Comment était constitué le ciel au moment de votre naissance? Comment étaient placées les constellations autour de vous? Sachant que tout est lié et donc évidemment nous sommes... constituée de toutes les énergies qui nous entourent et notamment des énergies astrales qui nous entourent, qui créent un petit peu notre carte d'identité astrale, on va dire. Et donc, toi, quand tu travailles avec les personnes, tu leur demandes leur thème astral pour l'avoir en support.
Oui, parfois, oui. Pas toujours, parfois, je sens que je vais en avoir besoin et j'ai beaucoup... En fait, j'ai appris, moi, l'astrologie comme ça. Donc, je suis aujourd'hui incapable de donner un thème à une personne, de lui écrire, si j'ai son thème, de lui écrire un compte rendu. Oui. Mais par contre, dans la relation avec elle, dans le papotage...
Et puis dans son rêve,
et au cours du rêve, il va y avoir certaines zones du thème qui s'illuminent à mon regard. Du coup, j'ai appris à mettre en scène l'astrologie. Alors ça, c'est plus dans le travail de groupe, c'est-à-dire qu'on va mettre en scène certaines planètes dans le thème d'une personne, à travers comme des jeux de constellations.
Comme la constellation familiale,
voilà.
C'est ça.
Mais au lieu de mettre en scène le père, la mère, les enfants, eh bien on va mettre en scène Jupiter, Saturne, Vénus et Mars. Et on va faire jouer comme ça des gens qui vont être tout de suite investis de certaines énergies et qui vont montrer à la personne comment sortir de sa problématique ou quels sont les outils dont elle dispose et dont elle n'est pas toujours consciente ou quels potentiels, là, sont prêts à être mis en lumière. Donc l'astrologie vivante, c'est vraiment des jeux. C'est de la mise en scène, souvent par le biais du jeu de rôle.
Oui, c'est assez fou d'ailleurs. Hein, ça, il faudrait que je fasse une émission de radio sur les constellations familiales.
Ouais.
Et pour l'instant, je n'ai pas encore mis mon nez. J'ai découvert le travail magique et quantique des constellations avec toi. Mais c'est vrai que, comme tu dis, le fait qu'on choisisse des personnes, on leur donne un rôle, et à partir de là, ils sont investis d'une énergie. Et eux-mêmes, après, quand ils en témoignent, ils disent « Mais je ne comprends pas, c'était étonnant. D'un coup, j'avais une énergie qui me tirait vers le sol, qui me plombait, ou au contraire, moi qui suis d'habitude timide, là, j'étais complètement extravertie et j'avais envie de faire rire tout le monde. » C'est puissant, hein. C'est vraiment du théâtre sacré, là.
C'est vraiment du théâtre sacré, exactement. Ouais. C'est une très, très jolie appellation, d'ailleurs. Et ce théâtre sacré, nous, on est pris dedans, mais on est pris dedans au quotidien, hein. On joue des rôles en permanence.
Oui.
Donc après, redevenir conscient aussi à travers ces jeux de rôles, à travers l'astrologie vivante ou les constellations familiales, les constellations symboliques, énergétiques, il y en a toutes sortes de différentes. Hein. Eh bien, ramener de la conscience à ces jeux qu'on peut jouer aussi, c'est une aide aussi pour le quotidien. Quand je suis pris inconsciemment dans un rôle et que je me vois en train de jouer, je peux le vivre à un autre... avec une autre écoute, si je suis habituée
à...
Un autre point de vue.
C'est-à-dire ne plus être seulement la marionnette qui joue,
exactement.
Mais être aussi le marionnettiste
complètement
qui voit
identifié.
Et qui choisit le scénario.
Exactement, on peut être aussi le marionnettiste. D'ailleurs, c'est ce qu'on est. Hein.
Ouais.
Dès qu'on devient conscient, on devient le marionnettiste qui actionne la marionnette. Donc voilà, c'est des...
On gagne en liberté, là.
Ouais.
On prend un peu de hauteur.
Ouais. Tout à fait.
Okay.
En maîtrise et puis en jouissance, hein.
De
vie. Hein. Sinon, c'est l'inconscient qui le fait pour nous et il le fait très bien. Hein. Puisqu'on voit même dans les jeux de rôle que on va choisir des personnes sans trop savoir qui vont jouer telle et telle partie de notre thème. Et en fait, on choisit les personnes qui ont exactement besoin de travailler ça à ce moment-là dans leur vie.
C'est ça.
Ça correspond exactement à leurs besoins. Donc en fait, la personne va jouer pour l'autre, mais elle joue surtout pour elle-même. Donc il y a une espèce d'orchestration globale pour tous les acteurs de la scène qui se fait vraiment à un niveau qui nous dépasse.
C'est une pure merveille. Hein. C'est ça qui te fait parler de jeu quantique ?
Oui, jeu quantique, voilà. C'est comme ça que je l'ai appelé aujourd'hui, parce que je me rends compte que tout ça, ben, l'infiniment petit et l'infiniment grand se rencontrent à un endroit où nous, on est au milieu. On peut être victime de ce grand jeu, ou on peut en être un acteur conscient. Donc, je pourrais dire que le travail que j'opère, c'est d'essayer de moi-même devenir de plus en plus consciente de cette orchestration globale des choses à travers le jeu des gens et en les invitant à devenir de plus en plus conscients du jeu qu'ils jouent dans la vie, des jeux dans lesquels ils sont pris et qui ne sont pas ceux auxquels ils veulent jouer. Et que globalement, que tout ça est un jeu et non pas aussi sérieux. On fabrique beaucoup de drames sur notre planète,
oui.
Parce qu'on vit les choses sous le thème du drame.
Parce qu'on est justement identifié à la marionnette.
Exactement.
Victime et qui n'a aucun
c'est
pouvoir.
Dramatique.
Et ça, c'est dramatique. Ouais. Tant qu'on est la marionnette, c'est dramatique. Ouais. Par contre, quand on devient le marionnettiste, là, on peut jouir du jeu.
Mais on est le marionnettiste.
On l'est, bien sûr.
C'est
mais
notre vraie nature.
Prenons-en conscience, c'est ça la question. Ouais. C'est notre vraie nature. Ouais.
Donc, c'est retrouver cette vraie nature. Mmh. Et à travers, finalement, ce que les enfants nous montrent, les jeux et le rêve. Et jouer des rôles.
Todo preparado, la función va a comenzar. El nombre de la obra es la vida real. Es mi teatro interior y es un drama, cae la lona. Tengo el privilegio de la primera persona. Actores salen a escena siguiendo un guión. No sé de qué va esto, soy todo improvisación. Compañeros de reparto me miran con desprecio. Parece que llevan años de ventaja haciendo esto. Tengo la sensación de que siempre llego tarde. He quedado rezagado y el tiempo no pasa en balde. Susurro en mi oído de una voz desconocida. Me persigue por la escena, quiere volverme un suicida. Me mete prisa, me reprocha mis actos. Estoy cansado y quedan años para el descanso. Nada es lo que parece, todo es mucho peor. No puedes imaginar lo que hay tras el telón. Países descalzos son cabezas de turco. Para guerras, negocio puro, marketing con truco. Pero da igual, el show debe continuar. Nos quieren vender que el mundo derrocha felicidad. Por eso los focos apuntan a los ricos. No interesan los nadie, prefieren ver Telecinco. Pan y circo, espera el próximo mundial. Pensando en niños de toreros, no en los que cosen tus Nike. Los que están detrás maquillan y manipulan. Vivimos en una especie de show de Truman. Nos hacen tener falsa sensación de libertad. Como granjas de hormigas limitadas en sociedad. Actrices del montón son marionetas sin vida. La vendieron a los medios por ser más conocidas. A un nivel o a otro, en la tele o en el Facebook. Hay gente que en YouTube tiene más pelis que Innsbruck. Ya no hay privacidad ni intimidad. Rivalidad por disfrazar la realidad con filtros de Instagram. Ahora todas modelos en playas, cuartos de baño. Y les importa poco quién ocupe los escaños. Bajo la luz de un flexo me pongo a hacer memoria. Algunas de ellas son anexos, ninguna es parte de mi historia. Una anécdota, un relato, dos semanas de un verano. Una tecla blanca, si mi vida fuera un piano. Al entregarte a ciegas, muchas fueran en vano. La belleza de una flor se pierde al ir de mano en mano. Salí de mi cárcel y ahora sufro agorafobia. La soledad entre gente, chica, me agobia. Encajaba nuestra historia en canciones de amor. Ahora en las de desamor y por desgracia se me da mejor. ¿Sabes? Guardo frases de odio. No para ti, para cuando te eches novio. Es obvio, no estoy sobrio, escribo otro episodio. Me vuelvo irracional y busco mágicos polvos que me hagan olvidar, que no me hagan pensar que no soy director, solo soy un actor más. Yo ni bailo break ni pinto trenes. Yo escribo y describo mi delirium tremens. Mañana buscaré culpables. Si no los encuentro, échame un cable. Señálame y dime, ¿es ese de ahí? Si no te creo, por favor, vuelva a insistir. Derrota tras derrota, decepción tras decepción. Si eres feliz, es que te falta información. Voy a escribir para liberarme y poder decir lo que me preocupa sin cortarme.
Petite dédicace à ce jeune rappeur peu connu, Tesak aka Karlman, avec son titre Teatro Interior, qui illustre bien, je trouve, ce dont on parlait à l'instant. Ce théâtre intérieur dont nous sommes le scénariste et le metteur en scène, lorsqu'on en est conscient et donc libre. Pour ce chemin de guérison et de conscience, eh bien, à chacun ses outils, Virginie Boissière, elle, nous propose le rêve lumière.
Alors toi, dans le travail que tu fais, donc à la fois tu proposes des séances individuelles en rêve lumière, mais tu proposes aussi beaucoup de travail en groupe, des stages, des formations, etc. Et tu commences à te passionner justement pour ce travail de groupe et ce travail collectif.
Tout à fait.
Alors est-ce que tu peux nous en parler de cette dimension collective et des enjeux qu'il y a, qui sont différents peut-être qu'à un niveau individuel ?
Oui, de toute façon, moi, c'est ce qui me passionne, le collectif et justement cette orchestration du collectif et comment devenir conscient de cette orchestration et en faire partie, enfin, jouer notre rôle, celui pour lequel on s'est incarné, j'ai envie de dire. Donc c'est vrai que ce collectif me plaît beaucoup. Moi, le rêve lumière, il m'est venu en rêve d'éveil. Un jour, j'ai fait un rêve et j'ai eu une énergie, le rêve lumière, qui s'est présenté à moi et qui m'a dit qu'il était temps de la mettre au monde, etc.
Donc alors, attends, juste pour que tout le monde comprenne bien. Le rêve d'éveil, donc, c'est ce qui a été créé par Michel Tabé, hein, celui tu as assisté pendant longtemps. Et donc là où tu l'assistais sur des stages de rêve d'éveil ou des formations, etc. Ouais. Et dans ce cadre-là, toi, tu as fait donc un rêve où apparaît l'énergie du rêve lumière, c'est
ça ? Oui, exactement. Il y a peut-être 3 ans de ça, donc, et qui s'est présenté avec certaines de ses caractéristiques.
Alors, quelles sont-elles, justement, ces caractéristiques du rêve lumière qui le distingue du rêve d'éveil ?
Alors, je dirais que le rêve d'éveil se joue à un plan, au plan de l'âme.
Oui.
Et je dirais que le rêve lumière se joue au plan christique. Alors, c'est un peu technique, hein, mais, ou un peu...
Ésotérique.
Ésotérique. Mais l'âme, c'est l'amour. Et le christique, c'est la lumière. Et si on peut regarder le yin et le yang, par exemple, la partie noire du yin-yang, eh bien, c'est l'amour. C'est ce qui se ressent, mais qui ne se voit pas. Et la partie yang...
Blanche.
Ouais, c'est la lumière. Et là, c'est une dimension beaucoup plus visible dans le plan terrestre, on va dire. Bon, après, c'est vraiment... peut-être pour le dire plus simplement, il y a une histoire de les deux entités, rêve d'éveil et rêve lumière, fonctionnent ensemble. Moi, je n'ai pas vraiment quitté le rêve d'éveil, puisque le rêve lumière englobe le rêve d'éveil. Puisque l'amour fait complètement partie du travail que l'on fait en rêve lumière.
Et puis, j'ai envie de te dire, de l'énergie christique.
Oui, tout à fait. Tout à
l'amour fait. En fait partie. Ouais. On est quand même...
Il y a une dimension aussi masculine de création dans le rêve lumière, alors que dans le rêve d'éveil, on est dans une dimension beaucoup plus féminine, de recevoir, d'accueillir. Mais les deux fonctionnent ensemble. Quand je transmets le rêve lumière, il contient en soi, dans son énergie, le rêve d'éveil.
Il y a l'aspect collectif, peut-être, là, qui est un peu plus puissant dans le rêve lumière.
Il y a l'aspect collectif qui s'est présenté avec le rêve lumière, tout à fait. L'idée, c'était que le rêve lumière, c'est un rêve collectif. C'est-à-dire qu'on peut rentrer à plusieurs dans le même rêve pour actionner certaines réalités. C'est-à-dire que si nous sommes passionnés autour d'un projet, on est une petite dizaine de personnes passionnées autour d'un projet qu'on a envie de mettre au monde, eh bien, on peut tout à fait utiliser cet outil, le rêve lumière, pour mettre au monde ce projet qui nous tient à cœur et qui va, du coup, le rêve va actionner beaucoup plus vite. Le fait de mettre toute notre énergie au même endroit et de partager ces rêves collectifs va faire descendre beaucoup plus vite dans la matière le projet en lui-même.
Alors là, concrètement, comment ça se passe ? Donc, imaginons, moi, par exemple, en ce moment, je fais partie d'un groupe avec lequel on a envie de créer un éco-hameau, habiter ensemble, etc. Alors, comment ça se passerait ? On s'installerait tous ensemble ?
Alors, moi, je vous conseille de vous allonger en étoile, avec les têtes au centre.
Oui.
Déjà pour bien vous entendre. Et puis, je pense que l'onde de forme de vos corps est importante aussi.
Oui, ça crée un joli mandala.
Oui, exactement. Et vous allez être récepteur chacun de certaines images du rêve. Donc, à tour de rôle, eh bien, les images vont venir à l'un, puis à l'autre, et le rêve va comme ça se co-construire.
Donc, chacun prend la parole quand il a ces images qui viennent et les partage aux autres.
Oui, exactement. Mm-hmm. Et puis après, ben, c'est une autre personne qui a certaines images et qui les rajoute, etc., etc. Et le rêve, voilà, se construit de lui-même, en fait. Il descend de plus haut à travers chacun des êtres que vous êtes. Vous le vivez vibratoirement. ça va vous donner certaines indications, peut-être, certaines énergies à mettre en scène et auxquelles vous n'aviez pas pensé. Ça va vous donner des éléments symboliques et imagés qu'il va peut-être falloir derrière transcrire matériellement, en comprendre vraiment le sens. Mais si vous posez votre intention au départ que, ben, je ne sais pas, si vous avez envie de construire par exemple un éco-hameau et que vous cherchez un terrain, la première étape, la première intention, c'est trouver ce terrain. Donc, vous opérez ce rêve et puis ensuite, vous voyez en quoi ce rêve vous donne des indications. Déjà, ça va vous mettre certainement dans une énergie de confiance quant à votre projet. Si vous êtes dans une énergie de confiance, les opportunités vont pouvoir se montrer à vous. Si vous êtes dans le doute, les énergies de doute, vous allez créer du doute dans votre matière. Mais si vous êtes dans la confiance, vous allez créer les opportunités qui sont là prêtes à venir à votre rencontre vont pouvoir, c'est comme si vous leur ouvrez la porte. Avec les doutes, vous leur fermez la porte.
Les doutes, pourtant, ils sont aussi à aller rencontrer. Et ce sont des énergies qu'on peut aussi aller rencontrer en rêve. Par contre, est-ce qu'on peut aller les rencontrer en rêve collectif ou est-ce qu'il vaut mieux les travailler après en individuel?
Après, le rêve lumière, c'est vraiment un outil qui s'adapte à tout. Donc, selon la difficulté que vous traversez dans votre groupe au cours de votre projet, bien sûr, vous allez pouvoir aller la rencontrer dans le rêve et ça va vous donner vraiment les indications. Peut-être qu'à un moment donné, il y a une personne qui n'est pas la bonne dans le projet, ni pour elle, ni pour les autres. Peut-être que...
Ou qu'elle a une problématique à dépasser,
exactement,
par exemple,
qui bloque
une peur par rapport à je ne sais quoi, voilà. Qu'on n'a pas assez d'argent, ou que je ne sais... Bref,
exactement.
Et là, il va falloir aller dépasser cet écueil-là, cette limite, parce que ça peut bloquer effectivement l'évolution du projet collectif.
Exactement, tout à fait. De toute façon, il n'y aura pas de projet collectif si les échanges se jouent au niveau des égos.
Oui, ça.
Donc, à un moment donné, les difficultés que les personnes ou que le groupe traverse, elles sont liées à des dépassements du stade de l'ego à chaque fois.
Est-ce que ça veut dire que les difficultés que chaque personne traverse est une difficulté que le groupe entier a à prendre en compte, c'est ça?
De toute façon, sinon le groupe n'aurait pas affaire à ça. Ça veut dire que soit il y a une force à acquérir face à l'ego d'une personne dans le groupe. Ça peut être une force d'amour, hein, même c'est souvent ça. J'ai pas forcément d'exemple là.
Ce que j'entends en tout cas dans ce que tu dis derrière, c'est que tout ce que l'on va rencontrer sur notre chemin, même si c'est par l'intermédiaire d'une autre personne, est une part de nous.
Oui, tout est une part de nous. On ne peut voir que ce qu'on est et ce qu'on a en nous. Sinon, ça ne peut même pas nous apparaître. Quand je vois une personne que j'admire énormément, que j'idéalise, ce que je vois et qui me plaît chez elle, c'est ce que j'ai en moi. Quand je vois quelqu'un qui me rebute, pour qui j'ai de la colère, ou ça me parle toujours de moi. Et c'est ça, reprendre la responsabilité de sa vie. C'est reprendre la responsabilité de tout ce que nous vivons, tout ce que nous aimons et tout ce que nous détestons, tout ce qui nous fait rêver. Ça nous appartient d'en faire quelque chose, de le guérir et de le créer.
Tu as parlé tout à l'heure d'intention, que le rêve commence par poser une intention.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ça, c'est effectivement, c'est le cas. Hein. On commence toujours une séance de rêve, qu'elle soit individuelle ou collective, par poser une intention.
Oui, tout à fait.
Est-ce que ça, c'est une démarche à... Comment dire une habitude à prendre dans notre vie,
mais
de poser des intentions.
Tout à fait. Je crois que nous, c'est notre rôle, poser des intentions. Poser une intention, c'est regarder à l'endroit où j'ai envie d'aller. Regarder à l'endroit où j'ai envie d'aller, ça va faire, bien sûr, sortir les difficultés qui font que je n'y suis pas encore ou que j'ai du mal à y aller.
Oui.
Donc, ça va me demander de traiter au fur et à mesure de ce chemin ce que ça fait ressortir. Mais ça va faire aussi ressortir toutes les lumières, tous les potentiels et toutes les valeurs qui sont nourries en moi et qui font que je regarde à cet endroit-là.
Et
que
mon enthousiasme, ma force de vie. Là,
exactement,
d'un coup, ma force de vie, elle est appelée, elle est aimantée vers cet idéal, vers cette
exactement,
envie.
Cet idéal. Et c'est vrai que les gens qui n'ont pas de direction, qui ne savent pas où regarder, où aller, c'est comme ils tournent autour du rond-point. Ils prennent pas de route, mais du coup, ça tourne en rond. Donc, c'est très important. Des fois, le rêve, ça part d'une intention qui peut paraître tout à fait banale. Et ça va peut-être montrer que la direction, c'est pas par là, c'est ailleurs. Mais le fait d'avoir choisi une direction, justement, ça en montre une autre. Donc, c'est très important. À un moment donné, c'est une forme d'engagement à la vie, de prendre une direction, de passer à l'action.
Sans avoir peur de l'erreur. Voilà. Comme tu dis, exactement. Parce que ça se décide à mesure du chemin, exactement. Et rien n'est définitif ou fatal.
De toute façon, si on regarde bien, il n'y a pas d'évolution sans erreur. Ou bien l'erreur est la pierre angulaire de l'évolution.
C'est ça, c'est le vecteur de l'enseignement.
Voilà, parce que sinon, il n'y a même pas d'évolution. Ça veut dire qu'on est déjà complet, on est déjà abouti, il n'y a plus rien à faire. Du moment qu'il y a quelque chose à faire et qu'il y a une évolution possible, c'est que de toute façon, mes vérités d'aujourd'hui, dans 10 ans, ne seront plus les bonnes. Donc, est-ce que ça voudra dire que je me suis trompée? Je crois pas. Je crois que ça veut juste dire que cette évolution fait évoluer toute chose vers des formes plus élevées en permanence. Mmh. Donc, c'est d'accepter de passer par des formes parfois plus denses qui vont arriver vers des formes plus élevées à un moment donné. Mais ça pouvait pas arriver vers ces formes élevées sans passer par les étapes antérieures. Mmh. Donc, c'est vraiment ça, l'amour. Hein, c'est d'accepter toutes les étapes de soi... toutes les étapes de vie, et puis j'ai envie d'aller vers le collectif. Toutes les situations qui viennent à moi, difficiles ou sympas, et la totalité du monde tel qu'il est aujourd'hui. Aimer le monde tel qu'il est aujourd'hui et lui faire confiance dans son devenir, tout en rajoutant la qualité de ma lumière à cette co-création qui est le monde.
Mmh. Ça nous invite à un chemin éminemment spirituel.
Ça, c'est sûr.
Virginie Boissière, pour les personnes qui ont envie de découvrir justement cet outil du rêve lumière, aussi bien en individuel qu'en collectif, comment peuvent-elles faire? Où est-ce qu'elles trouvent les informations? Donc, tu as un site internet.
J'ai un site internet.
Tu peux nous le donner?
Oui, www.sophrologie-gare.net.
Parce que toi, tu es sophrologue à la base.
Voilà,
hein,
tout à fait.
www.sophrologie-gare.net.
Voilà. Et après, ben, j'ai un numéro de téléphone où
oui,
les gens peuvent me joindre au 06 13 07 27 49. Donc j'anime tout un tas de stages, de petits ateliers aussi de 2 heures, hein, des rencontres à la pleine lune, des cercles d'évolution où on va mettre en scène voilà, tous ces types de jeux et de rêveries. Et puis j'anime une formation, plusieurs formations même pour former des praticiens rêve lumière qui sont vraiment des formations à la fois de travail puissant sur soi, de retrouvailles avec soi et en même temps d'acquisition de l'outil rêve lumière. Mmh. Et j'anime également une formation pour former des animateurs de groupe avec les jeux quantiques et les rêves lumière.
Sachant que tu es basée à côté du ZES, et que du coup, toutes les activités, pour l'instant, sont en majorité voilà. Par ici, dans
c'est
la
ça.
Région du ZES.
UZES, et je commence à en faire de plus en plus à Nîmes.
D'accord, voilà. Ok. Bah écoute, un grand merci, c'était un plaisir d'échanger avec toi, ça faisait longtemps que j'avais envie de donner la parole à ton message, à tout ce que tu véhicules comme énergie, et aux rêves lumière, donc voilà. Ça
merci.
Y est, c'est envoyé sur les ondes.
Super, merci beaucoup, merci à tout le monde.
My gang will get you. Retrouvez les enfants du Nouveau Monde tous les mois sur Radio Fuse. Et en attendant la prochaine, retrouvez et téléchargez toutes mes interviews sur le site web au service du vivant.info.